qu'il y a d'important, c'est de voir que c'est le processus qui est intéressant. C'est pas juste le fait d'avoir le bus qui est fini, c'est tout l'apprentissage qui va avec et tout ce qu'on a appris.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia DeSantis, et toutes les deux semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie mêlant développement personnel et voyage. Dans cette saison 3, vous allez entendre des parcours de femmes différentes, mêlant aventure, voyage et épanouissement. Il y a 2 semaines, pour le premier épisode de cette saison, je recevais Julie, et avec elle, on a discuté de comment, grâce au bénévolat, elle a réussi à trouver sa voie pour devenir guide naturaliste. Alors si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite vivement à aller y jeter une oreille. Cette semaine, je reçois non pas une, mais 2 femmes badass. J'ai le plaisir de partager avec vous cette interview que j'ai réalisée de Clem et Mumu, les 2 créatrices de, entre autres, Voyage en roue libre. Avec elles, on a parlé du Canada, où elles habitent depuis environ 10 ans, de comment elles sont devenues freelance, toutes les 2, des projets qui permettent d'apprendre, de l'achat de leur bus scolaire canadien pour le transformer en studio de production et cinébus, de créateurs nomades qui vous aident à booster votre activité de créateur freelance, et d'organisation quand on a plusieurs activités comme elles. Parce que vous allez voir, Clem et Mumu, elles font vraiment plein de choses. Si vous êtes intéressé par le digital nomadisme et la création de plusieurs projets, ou encore que vous avez envie d'acheter un bus pour le retaper, cet épisode est fait pour vous. Et avant de vous laisser avec ma conversation, si le podcast vous plaît, je vous invite encore une fois à me laisser une note et surtout un commentaire sur Apple Podcast ou votre application d'écoute de podcast. C'est complètement gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup à faire découvrir le podcast et à le faire grandir. Donc merci, merci d'avance. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clem et Mumu, je suis ravie de vous accueillir sur De Vraie Vie, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi et ouais, salut.
On va le voir dans cet épisode, donc vous êtes des multi-passionnés, vous avez plein de projets qui sont vraiment super chouettes, donc je suis vraiment ravie de vous avoir pour pouvoir en discuter, puis montrer aussi aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent que bah tout est possible. c'est le but un peu du podcast quand même.
Merci de l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors du coup, vous êtes toutes les 2 franco-canadiennes, principalement basées à Montréal, donc notamment en ce moment, si j'ai bien compris, mais pas que, il y a du voyage forcément là-dedans, hein. Et vous êtes aujourd'hui toutes les 2 freelance et entrepreneurs. Est-ce que, déjà, vous pourriez vous présenter individuellement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, et puis après on va essayer de voir ce que vous faisiez avant, faire un petit retour en arrière.
Moi c'est Clem, donc je suis directrice de création et graphiste de formation, donc je travaille de plus en plus sur des projets d'identité, mais autour de création de personnages, parce qu'on travaille pas mal pour des projets éducatifs, autour des médias et des projets engagés. Et on fait aussi pas mal de communication pour nos clients à l'écrit. Enfin, on fait pas mal de trucs assez différents, mais souvent, c'est de la communication autour de projets positifs. Et à côté de ça, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Voyage en roue libre, sur laquelle on montre comment on convertit notre autobus scolaire en cinébus, en studio de création. On a aussi notre blog et notre podcast où on aide les créateurs à devenir des créateurs nomades, donc qui portent ce nom-là. Du coup, on a développé une formation pour accompagner justement les freelances qui sont photographes, illustrateurs, graphistes, motion designers, en fait, à développer une activité de freelance, mais qui te prennent pas au piège, en fait, dans le fait d'avoir des mauvais clients, des clients nocifs, etc. Vraiment développer un truc qui soit aligné avec toi, notamment autour des projets personnel. Et on a aussi créé Les Petits Aventuriers, qui est une chaîne YouTube pour les enfants sur la découverte du monde qu'on a créé pendant qu'on a fait notre tour du monde de 2014 à 2016, depuis 2016.
Ouais, franchement, quand on voit un peu tout ce que vous faites, c'est vachement impressionnant. Donc bien sûr, on va revenir dessus un petit peu plus loin. Et du coup, toi Mumu, est-ce que tu peux te... En 2 mots aussi.
Moi, j'ai 35 ans.
Ah,
voilà, j'ai trouvé mon âge, ça y est, je me suis rappelée. J'ai été employée pendant 10 ans, en fait, en événementiel pour les événements culturels et sportifs à Montréal. Puis depuis l'an dernier, en fait, j'ai rejoint Clem dans l'aventure. Mais avant ça, en fait, j'ai toujours adoré le voyage, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait mes études à l'étranger. J'ai travaillé aussi un an en Inde. C'est ça. J'ai fait mes études pour trouver des opportunités pour voyager. C'est un petit peu ça le truc. Du coup, c'est ça, ouais. Depuis l'an dernier, ça fait un an que j'étais à plein temps. Mais au retour du tour du monde, en fait, j'ai déjà commencé à travailler avec Clem sur les projets personnels, comme elle disait, les petits aventuriers, le bus, voyage en roue libre, les créateurs nomades. Donc en fait, j'ai un petit peu bâti ma transition, en fait, pour justement pas avoir de problème pour la suite.
D'accord, ok, super. Donc vous êtes toutes les deux françaises, si j'ai bien compris, d'origine, et donc vous êtes expatriées toutes les deux au Canada. Alors comment est née justement... Alors je vais d'abord commencer par Clem, parce que toi du coup, effectivement, Mimu, t'as eu pas mal de trucs avant. Comment s'est passée cette idée, enfin comment est venue cette idée d'expatriation au Canada? Est-ce qu'à la base c'était un PVT, t'es resté ou... C'était quoi le plan au début?
Alors au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, depuis toute petite, je voulais voyager. J'ai découvert le Canada via la tante de ma maman qui venait se réfugier ces hivers en France. Et surtout avec le logiciel qui s'appelait Encarta 97 à l'époque et qui permettait un peu de découvrir le monde. C'était un peu le Wikipédia de l'époque, mais j'étais fascinée par le fait d'aller découvrir le monde et tout. Voilà, ça s'est passé qu'après, bah, j'ai grandi, mais j'ai toujours eu cette idée que dans ma tête, c'était sûr, j'allais partir. Quoi. Et pendant mes études, j'essayais de voir comment je pouvais partir, mais j'avais pas. J'étais dans une école privée, j'avais pas trop envie de qui coûtait cher et de perdre une année via un Erasmus qui raterait ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, je vais partir dès que j'ai mon diplôme. Au début, je m'étais dit, le Canada, c'est cool. Après, je suis allée vers la Nouvelle-Zélande, puis quand j'ai vu les prix des billets d'avion pour la Nouvelle-Zélande, je vais retourner au Canada. Et en fait, j'avais prévu d'aller à Vancouver au début parce que je voulais aller dans la partie anglophone. Et en fait, c'est diverses raisons qui m'ont menée en fait finalement à Montréal. Puis j'ai vu que c'était une ville qui était hyper dynamique culturellement et tout. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais commencer par cette ville et puis on verra après. Donc j'ai fait un PVT. Donc au moment où le PVT était pas encore aussi prisé, enfin on avait je pense 2 semaines pour pouvoir remplir le dossier. Donc déjà à l'époque c'était méga stress et même à ce moment-là j'étais sur un événement pour le boulot et donc c'était un peu galère à gérer à distance. Mais je me suis dit, en revoyant la situation en arrière, je me dis j'ai eu de la chance parce que l'année suivante ça s'est fini en 2 jours. En arrivant je me suis dit, je vais rester 1 an. J'avais pas vocation de rester plus longtemps.
Ton plan c'était quoi?
C'était d'être freelance sur place.
Ok, d'accord. Donc, t'étais déjà freelance à l'époque, tu voulais...
Ouais, en fait, depuis
toujours. C'était en 2011, c'est ça?
Ouais, en fait, dès toute petite, j'ai décidé que je serais entrepreneur. Tu sais, je faisais des fausses agences, des faux machins, des trucs sur... Enfin, je me faisais mes tripes là-dessus, c'était mon truc. Quand j'ai commencé mes études, j'ai pris des clients freelance à côté parce que je me suis dit, bah, y a comme ça que je vais apprendre parce que c'est pas à l'école qu'on t'apprend à devenir entrepreneur. Et finalement, j'ai commencé à prendre des clients, j'ai fait mes premières gaffes en freelance, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais avant mon diplôme, donc c'était parfait. Donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé un peu plus de 6 mois pour le laboratoire intégral Rudy Bork, qui est c'était quand même très cool à avoir comme première expérience. Enfin, après j'avais eu mes stages avant, mais dès que j'ai fini, je me suis dit, bah, je vais au Canada. Et là-bas, je m'étais dit, bah, je vais continuer en freelance. Et en fait, la boîte dans laquelle j'étais avant, donc chez Intégral Rudy Bork, j'ai vu dans un livre, puis en me renseignant, etc., qu'il travaillait avec quelqu'un ici sur un projet assez cool. Et finalement, bah, j'aurais dit, bah, vous avez eu l'air d'être très content de ce que j'ai fait. Donc voilà, si vous voulez que je vous aide de l'autre côté de l'Atlantique avec votre associé. Et puis ils m'ont dit, bah ouais, carrément, ils m'ont mis en contact. Et donc en 1 mois, j'avais... bah en fait, on m'offrait un emploi. Et là, on m'a dit, oh, vas-y, on veut travailler avec toi et tout. J'ai dit, ouais, moi, je travaille en freelance. Non, on veut t'embaucher.
Ouais. Ah,
bah, pourquoi pas? Ok, on va essayer.
Donc, t'avais jamais envisagé ça avant. Et puis là, avec cette opportunité, tu t'es dit, bon, bah, testons, quoi.
Bah, c'est ça. Je me suis dit, je vais pas faire la fine bouche. On me propose un emploi dans un pays où, enfin, tu sais, j'ai pas de racines, j'ai rien,
quoi.
J'ai juste
quoi.
Juste un email de quelqu'un qui aurait pu être intéressé par mon travail. Et voilà. Ça s'est fait comme ça et
bah top. Hein.
C'est un peu la magie aussi du Québec, ça, je trouve.
Et du coup, tu à la base, donc ton plan c'est de rester 1 an finalement, vu que t'as ce job, ben t'y es encore quoi. Enfin bon, pas par rapport à ce job, mais tu t'es pas dit bah je vais rester 1 an puis je vais repartir quoi.
Au bout de 3 mois, tout a changé très vite dans ma tête, dans ma vie, partout quoi. Il y a tout qui a basculé en fait en arrivant au Québec. La façon dont les gens pensent ici, la façon de percevoir le travail, tout a fait comme waouh, la ville elle est trop bien, si t'es une femme c'est merveilleux. Non mais c'est vrai, tu te fais, enfin le harcèlement de rue est vraiment on en parlait l'autre jour quoi, on s'est fait embêter 2 fois depuis qu'on est à Montréal.
En 10 ans
hein, donc ouais, c'est quand même rien, tu peux te balader à 4 heures du matin dans les rues, il y a personne
c'est
qui va venir t'embêter et tout. Et voilà, j'ai fait, ok, c'est ici, je veux rester, je veux voyager ici. Et puis, voilà.
C'est safe.
Ouais. Et puis, okay. Mais j'avais quand même envie de continuer à voyager. Puis ça, au bout de 4 ans, voilà, j'en pouvais plus.
Et toi, du coup, Mumu, avant, donc t'en parlais un petit peu, avant de débarquer au Canada, donc t'as fait tes études en France, et après t'es partie en Malaisie, puis en Inde. Comment ça s'est fait tout ça? Et après, pourquoi le Canada aussi?
Bah, en fait, en Malaisie, c'est parce qu'en France, j'ai intégré une école de commerce. Et du coup, il y avait des options pour faire des échanges. Et je suis partie en Malaisie pour 6 mois. Du coup, bah, j'ai adoré. Suite à ça, en fait, les 6 autres mois, j'en ai profité pour faire un break, aller me promener, backpacker dans toute l'Asie du Sud-Est. Et puis, suite à ça, en fait, fallait que je trouve un stage. Et j'avais pas trop envie de rentrer en France à ce moment-là. J'ai regardé. Puis, en fait, ce que j'ai fait, ce que me permettait de faire l'école de commerce, c'était de prendre une année de césure, donc une année de pause. Et en fait, j'ai profité de cette année de pause pour travailler 1 an en Inde, ce qui a été validé comme stage pour moi. Suite à ça, j'avais ma dernière année en France, donc je devais rentrer. Mais j'avais toujours pas envie de rentrer, sauf que j'avais envie d'avoir un peu des vrais hivers. Donc je me suis dit, ah, le Canada, c'est pas mal. Ouais. Et le fait de parler français aussi, ça me manquait un peu. Mais j'étais pas encore prête à rentrer en France. Donc bah, le Québec, c'était pas mal. Et justement, il y avait un échange qui était mis en place. Donc j'y suis allée. Ça m'a donné l'occasion aussi d'avoir un double diplôme, cette destination. Donc c'était pas juste valider un semestre. D'accord. Je pouvais avoir un diplôme des deux côtés de l'Atlantique, ce que je trouvais assez intéressant. J'ai fini mes études à Québec, donc la ville de Québec. Suite à ça, pour valider ce diplôme, j'avais un dernier stage à faire. Et je l'ai trouvé à Montréal. Donc, il y a eu ma dernière année où je l'ai faite un petit peu entre Montréal et Québec. Et suite à ça, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage m'a proposé un travail, en fait, m'a embauché. Donc, je l'ai pris. Puis, ça m'a plu. C'était très dynamique. Il y avait beaucoup de travail aussi extérieur dans l'événementiel. Je trouvais ça hyper stimulant. Ça me permettait aussi de connaître bien la ville, les événements, etc. Puis après quelques années, un petit peu comme Clem... Il y a eu quand même de la routine parce que ça reste que c'est quand même toujours les mêmes événements qui reviennent chaque année. Donc les premières années, je trouvais ça très stimulant et les années d'après, je trouvais que j'apprenais plus assez. Et c'est là que on s'est retrouvés toutes les deux et on s'est dit bon, là faut qu'on fasse quelque chose, on s'encroûte et on est parti en tour du monde.
Et donc là, vous êtes rencontrés à Montréal, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. On s'est rencontrés en voyage à Montréal, en fait. Enfin, on partait faire du canot camping avec des potes. Et puis, on était chacune là. Et voilà, tout simplement.
Et du coup, quelques années après, c'est là que vous avez décidé donc, de partir en tour du monde. Vous en avez parlé. Donc, vous allez partir pendant 1 an. J'ai bien compris, en 2016-2017, c'est bien ça?
Un peu plus qu'un an. Fin 2014 à début 2016.
Ah oui, donc pas du tout ce que j'avais dit. Ok, très bien. Donc à ce retour, un tour du monde, c'est génial, effectivement. On découvre, il se passe plein de choses, mais c'est souvent en général avec une date de retour, ou alors il y a toujours une fin. Donc vous commencez à approcher de cette fin, et puis vous sentez que la pression du retour un peu qui commence à vous peser. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que vous allez faire?
Moi, en fait, donc Mumu qui parle, qui avait vraiment cette appréhension de retourner un petit peu au travail, parce que Clem, elle avait dû démissionner pour partir, en fait. Donc elle était déjà en mode freelance. Ce qu'elle voyait, je pense, le bénéfice, mais elle en parlera peut-être plus tard, c'était que ça sera peut-être plus facile avec un petit peu de stabilité au début pour consolider sa clientèle. Mais moi, c'était vraiment le côté de retourner dans mon cubicule avec vue sur un parking. Ça me tentait pas du tout. Et en plus de ça, on avait commencé à développer des projets personnels, notamment les petits aventuriers. Et puis, c'était vraiment quelque chose...
Vous l'avez développé durant le voyage, c'est ça?
Ouais, c'est un petit peu dommage. Le concept est né sur la fin du voyage. Mais bon, on a vraiment aimé ça. Donc, on a fait les États-Unis et un petit peu de Québec au niveau des épisodes. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Il y avait de la photo, il y avait de la vidéo, il y avait de l'histoire, des sciences, beaucoup de recherches aussi. Et je trouvais ça intéressant. C'était très varié, en fait, les sujets qu'on abordait. Du coup, c'est vrai qu'à y réfléchir, on s'est dit, on pourrait construire un projet autour de ça. Donc là, je me suis mise à le développer. Puis c'est un petit peu de fil en aiguille. On est aussi arrivé à la conversion de notre bus jaune avec Voyage en roue libre. Puis tous ces projets mis bout à bout, ça m'a un peu fait tenir et c'est grâce à ces projets que j'ai construit ma future carrière de freelance.
Mais t'étais vraiment genre au retour du tour du monde, enfin pendant le voyage, c'était non mais là faut qu'on aille voir ça et tout. Puis moi ouais. J'étais en mode non mais là faut que je sorte ce projet là, j'ai des échéances et tout. Donc ça crée un peu des tensions aussi parce qu'on n'avait pas forcément.
Tu continuais à travailler, c'est ça, durant le tour du monde, tu continuais à travailler toi?
Non, ouais, je voyais ça plus comme une opportunité. En fait, on est parti un peu sur un coup de tête parce qu'on avait prévu de partir peut-être un an plus tard, mais au bout d'un moment, on était vraiment, comme on dit au Québec, on était tannés, on n'en pouvait plus. Et finalement, on a avancé le voyage d'un an et on est parti un peu en mode freestyle et sans nécessairement avoir d'économie ou quoi. Donc moi, je m'étais dit, bon, bah le moyen de financer ce voyage, ça va être d'être freelance. J'ai des clients, parce que j'ai toujours eu des clients, si tu veux, en parallèle aux emplois que j'ai eus. J'aime pas avoir qu'un truc dans ma vie.
Et oui, je vois ça.
Et je me suis dit, bah tiens, bah pourquoi pas continuer comme ça et puis développer, trouver des clients sur la route et tout. J'ai déjà travaillé à distance pour la France, pourquoi pas en fait continuer comme ça. Sauf que c'était pas une bonne idée de partir sans avoir consolidé, comme tu disais, ma clientèle avant. Donc moi, j'avais quand même le stress financier parce que Mumu était en sabbatique, elle avait des congés.
En fait, j'avais pas mal d'heures supplémentaires parce qu'en événementiel, ça va quand même assez vite. Moi, en fait, dans mon travail, j'avais, ce qui est quand même très rare dans l'événementiel, la possibilité de cumuler ces heures. Donc je me suis retrouvée avec une banque d'heures, parce que je les ai pas récupérées forcément, vu que je savais que je partais. Et je me suis retrouvée avec une banque d'heures supplémentaires à récupérer. Je pense que j'avais 3 mois d'heures supplémentaires. Du coup, déjà, ça a un peu aidé pour le début parce que c'était comme si j'étais payée, mais je les ai juste sortis comme ça. J'avais aussi quand même la sécurité de l'emploi, tout simplement. C'était une année sabbatique, mais j'avais la garantie d'être prise derrière.
Moi, pas du tout. Moi, c'était en mode, il n'y a pas de client, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que Clem, elle avait dû démissionner de son travail, donc c'était pas forcément la même dynamique, en fait, à ce moment-là.
Mais Clem, vu que tu avais démissionné, là, tu travaillais en freelance, est-ce que tu te disais, au retour à Montréal, je reprendrai un job, ou le but c'était de continuer avec tes clients?
Non, je voulais continuer avec des clients, c'était l'objectif, mais comme je disais, cette année-là, c'était vraiment une année où j'ai vraiment mal fait les choses. En fait, j'ai été prise par un peu l'effet de pénurie, c'est un truc dont on parle souvent sur notre podcast, dans la formation, puis dans notre guide, c'est quand t'es dans une situation où t'es freelance, on se retrouve très facilement dans cette situation, c'est que quand t'es dans la peur de manquer, tu stresses, et du coup... Ce stress-là te fait prendre des contrats que tu veux pas, ça te fait accepter des trucs que t'as pas envie de prendre, qui sont contraires à tes valeurs et tout, parce que t'es juste en mode « j'ai la dalle, faut que je mange ». Et en fait, t'es dans une situation où tu te mets en position de faiblesse par rapport à tes clients, t'es vraiment pas dans de bonnes conditions. Puis en plus, vu qu'on était en voyage, il y avait tout le stress de savoir, souvent on est en road trip, où on dort, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on se lave. Donc moi, j'étais en mode pénurie à fond, en mode je suis en danger quotidien. Et voilà, donc j'ai vraiment pris le truc dans le mauvais sens. Et en rentrant, je me suis dit, je vais essayer de reprendre les trucs, poser, mieux travailler tout ça. Et c'était hors de question au début de reprendre un emploi. Puis à un moment donné, dans tout ce qui s'est passé par la suite, pendant que j'étais en train de voir un potentiel client, le potentiel client voit mon book et tout, on discute, machin, et puis il me dit, en fait, je veux pas que vous soyez freelance, je veux vous embaucher.
Ça recommence.
Et bim.
J'ai fait... peut-être que c'est l'occasion que je repose les bases, les projets ont l'air cool. C'était un emploi où là j'étais en position de force aussi, donc j'ai négocié tout ce que je voulais, donc c'était parfait.
T'as pas accepté ça par dépit ou par peur?
Non.
T'as vraiment accepté ça parce que ça te faisait envie?
Ouais, non, j'avais, on m'offrait un poste en or, donc, c'était dans une des plus grosses agences d'architecture de Montréal, c'était un truc assez cool, avec des projets cool, des gens cool. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, puis tant qu'à faire, je continuerai de garder mes clients ceux que j'aime. Il y en a certains que j'aimais que je pouvais pas garder pour des questions de concurrence, mais après je me suis dit, je vais vraiment me concentrer à travailler sur des projets à côté le soir et le week-end que je kiffe, des clients que je kiffe, et de remettre les bases. Et puis quand je suis repartie en freelance, parce qu'en fait en employé au bout d'un an, même avant j'en pouvais plus. vraiment le truc de pas aller chercher mes contrats, de pas avoir
trop monotache, quoi.
Ah ouais, non, c'est pas possible. Vraiment, j'y arrive pas. C'est vraiment un truc, je pense. T'as certaines personnes qui ne peuvent pas être employées, ça marche pas.
Est-ce que tu dirais que justement le fait que t'étais vachement libre avant, que t'étais freelance et que vous avez voyagé aussi, est-ce que tu dirais que ça a eu un impact sur ton besoin peut-être de liberté, ton besoin d'autonomie?
Non, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est dans mon caractère, parce que même à l'école, j'ai eu ce truc-là. J'étais en public, à un moment donné, on m'a passé en privé, et en privé, c'était très cadré et tout, et j'étais non, mais moi je vais retourner dans un lycée de ma ZEP où on me fout la paix, je fais mes trucs. J'avais des super résultats dans ce contexte-là, alors que dans le cadre privé où t'es très encadré, on dit tu peux pas sortir, t'es obligé d'aller en études et tout. Où là, mes résultats se sont effondrés. Donc vraiment, si on me fout la paix,
finalement, elle est cadrée, mieux ça se passe.
Ouais, c'est ça.
Parce que du coup, tu t'auto-cadres, quoi. Bah, quand t'as 1000 projets, t'as pas le choix. Ça, on pourra en reparler. Ok, super. Du coup, maintenant, on va parler de Elva. Ou Skooli, j'ai pas trop compris si c'était Elva ou Skooli.
Non, Skooli,
c'est les bus qui sont convertis en fait.
C'est le nom de la.
Ah, c'est le nom des. Ok, d'accord. Et Elva, donc c'est le nom de votre bus.
C'est ça.
Donc dites-nous tout. Comment est-ce que ce projet est né en fait? Comment est-ce que vous vous êtes dit un jour, ben vas-y, on achète un bus et on le refait.
Bah en fait déjà, bon, les bus scolaires, faut se le dire, hein, c'est kiffant. C'est un petit rêve d'Européen quand t'arrives au Québec ou aux États-Unis, tu te prends en photo avec. C'est surtout pendant le voyage, qu'en étant autour du monde, on a pas mal bougé en van, on a même été dans une petite Jeep. Et comme je travaillais, moi, j'étais vraiment pas bien pour bosser, c'était galère. Dès que tu te mets en mode lit, bah, t'as plus de bureau. Dès que t'es en train de manger, t'as plus de bureau et tout.
Alors, en plus, on allait être deux, là.
Ouais. Puis là, on allait être deux à bosser, donc ça allait être encore plus compliqué. Et il y avait les petits aventuriers, puis à un moment donné, on se dit, bah, ça serait quand même cool, peut-être, de prendre un bus et puis parce que c'était cohérent avec le projet des petits aventuriers, avec l'éducation. Tant qu'à faire, bah autant prendre notre bus. On le fait comme on veut aussi, parce que le problème des vans, c'est qu'ils sont souvent aménagés pour les vacances, mais pas pour travailler dedans. Puis on s'est dit, ah, ça serait cool, on va apprendre plein de trucs, parce que tu auras peut-être remarqué dans notre parcours, mais nous, le fait d'apprendre, c'est un peu notre essence, quoi. Et du coup, bah c'était bah genre, ok, bah on va le faire. On a cherché quand même pendant un an, on s'est renseigné, on n'a pas fait ça en mode...
On a considéré les minibus, les gros bus, c'était le même prix. On s'est dit, bon, on prend le grand bus.
Ah ouais.
Après, sur la réalisation, okay, ça coûte plus cher que...
Ouais, c'est ça. Ouais. On l'avait moins calculé. Mais on voulait avoir de l'espace aussi, ouais.
Le but, c'est d'avoir ce bus que vous allez transformer donc pour tourner vos vidéos, si j'ai bien compris, et en cinébus. Est-ce que le but, c'est de voyager avec? Comment dire? De voyager dans le monde entier? Ou comment vous imaginez la suite? Quand il sera fini?
Oui, déjà. Bon, ça, c'est un gros point. Mais l'idée, ouais, c'était de parcourir... Bah, déjà, de commencer par des petits voyages entre le Québec, l'Alaska, le Canada.
Oui, parce que bah, du coup, c'est ça. Quand on est arrivé quand même au Québec, nous, l'idée, c'était qu'on voulait découvrir le Canada. Mais on est parti autour du monde, mais on n'a pas fait le Canada. Quoi.
Mais pas au Canada.
On a été dans les Rocheuses, mais après, on a bien voyagé au Québec. Mais pour le reste, ça reste encore pas mal à explorer.
Mais on se dit que justement, le bus, c'est vraiment pour le continent quand même. Tout ce qui est nord-américain, c'est un format qui est facile pour voyager aussi.
Parce que les routes sont plus grandes aussi, pour se garer et tout. Enfin, je sais pas, j'imagine des trucs vraiment très pratiques, tu vois. Mais en Europe...
Ouais, ça va être un peu plus galère. Mais bon... Mais l'idée, ouais, c'est de pouvoir l'emmener et puis de faire des vidéos des petits aventuriers un petit peu partout. Parce que, bah, comme tu dis, au Canada, les distances sont grandes. Et puis, bah, souvent, tu vas dans des endroits, puis il n'y a pas forcément des options d'hébergement partout. Donc, faut être autonome. Mais si on veut travailler en même temps, bah, ça nous permet d'aller dans un endroit, une région plus isolée. Je sais pas si on veut faire des vidéos des petits aventuriers sur la faune canadienne. Bah, c'est sûr que dans le centre-ville de Montréal, on va pas forcément trouver d'ours. Mais si on s'éloigne en forêt, bah, on peut rester dans un endroit pendant 4-5 jours avec le bus en autonomie. Puis on peut travailler dedans, puis justement pouvoir tourner, quoi.
Qu'en fait, l'idée, c'est que on s'est dit, bah, c'est cool. Parce que le bus, c'est un espace de travail. Puis quand on fait les vidéos des petits aventuriers, souvent, bah, on essaye d'interviewer ou trouver des gens sur place pour parler du sujet aussi. Donc l'idée d'avoir la partie cinébus, c'est aussi un moyen de rentrer en contact avec les locaux. Donc éventuellement montrer les vidéos des petits aventuriers, mais aussi d'autres créateurs. Puis on aurait aussi le bus qui nous servirait d'espace de formation pour les créateurs. Donc c'est vraiment un projet assez...
Donc il y a une partie pour vous, pour dormir, peut-être manger, etc. Et il y a vraiment une partie bureau, studio, que vous allez pouvoir transformer en cinéma, quasiment.
En fait, on va projeter sur le bus.
À l'extérieur, ouais. D'accord. Trop bien, j'ai trop hâte de voir le résultat.
Ah bah nous aussi, hein.
C'est trop cool. Oui, parce que, alors du coup, ouais, vous l'avez acheté, ça c'était il y a 2 ans. Et donc, depuis 2 ans, vous êtes en train de le rénover. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, bah, vous pouviez le rénover que un jour par semaine, que quand il faisait beau, ce genre de choses. Et aujourd'hui, donc, Mumu, ça fait 1 an que t'as démissionné pour vraiment te lancer dans ton activité, enfin, rejoindre du coup Clem. Et du coup, est-ce que maintenant, vous avez un peu plus de temps, justement, pour vous en occuper? Ou est-ce que vous en êtes aussi?
Non, mais par contre, on a plus de flexibilité, parce que bah, c'est vrai que moi, il y avait des périodes, et notamment l'été, bah, je travaillais en événementiel, donc les événements, c'est souvent les soirs et les week-ends. Du coup, bah, je travaillais aussi sur ces périodes-là. Donc, puis je travaillais en semaine aussi plus au bureau.
T'avais pas le choix sur tes heures.
Ouais, c'était compliqué en fait de trouver. J'étais pas flexible, puis il fallait que ça marche. L'été, on avait du mal à y aller régulièrement. Là, en étant toutes les deux à notre compte, on peut quand même choisir la journée pour y aller en fonction aussi de la météo, etc.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, en fait, le bus, quand on l'a acheté, il était rouillé jusqu'à l'os. Même en ayant vérifié tout, au Québec, t'as pas le choix, en fait, parce que les autobus sont pas traités contre la rouille, si tu veux, parce que au bout de 10 ou 12 ans, je sais plus, ils doivent de toute façon s'en débarrasser, les transporteurs scolaires, parce qu'ils ont plus le droit de les utiliser. Ils les entretiennent pas comme ils entretiennent leurs camions. Et ce qui fait que, ben, on a dû arracher le centre du sol d'Elva, c'est-à-dire qu'on voyait à travers le sol, on voyait la route et tout. Il a fallu remettre des poutres de métal sur la structure, il a fallu qu'on apprenne à souder, qu'on refasse les passages de roues, la courbe en métal, enfin, ça a été un truc assez costaud, quoi.
C'est ça, vous aviez jamais fait ça avant. Vous avez tout découvert sur le tas, quoi.
Ouais, on m'a tout appris en direct. Donc déjà, ça, c'était un gros machin. Donc quand tu sais pas, bah, tu prends 10 fois plus de temps à prendre les bonnes décisions. Alors heureusement, on a du monde grâce à la chaîne YouTube qui nous a donné des coups de main, qui nous a donné des conseils, etc. Mais c'est un peu comme quand tu te retrouves sur Audition, Photoshop ou n'importe quoi, quand tu sais pas
c'est ça.
Quel outil t'as à disposition et lequel utiliser, pourquoi, tu sais pas par où commencer et prendre le truc.
Il y a pas une formation pour taper son bus.
Non. Peut-être qu'on la créera un jour, on sait
c'est
pas.
C'est une idée,
mais
c'est
vachement prenant en termes de temps. Et du coup, on avait ce gros trou dans le bus, il a fallu le poncer pendant des mois. Et le truc, c'est que l'hiver, bah, tu peux pas travailler dedans quand t'as un trou aussi énorme. Enfin, le bus, il était...
Ouais, il fait moins vent déjà, t'as pas trop envie d'y aller.
Ouais, c'est ça. Faut s'imaginer qu'au Canada, il y a 10 mètres de neige.
C'est ça, puis t'as la colle, toutes les peintures, tout ça, ça peut pas marcher à partir du moment où il fait 15 degrés, ça marche plus. Donc on était un peu coincés, donc on en a profité pour aller à Hawaï, on a fait des trucs cool, on est allé à Pensco, enfin bref, on a fait d'autres trucs.
L'hiver,
mais
on fait autre
si tu veux, techniquement, le bus, on a travaillé 2 étés dessus à base de 1 jour par semaine. Et maintenant...
Et on filme aussi, hein. Faut pas oublier.
Bah oui.
Quand tu filmes, du coup, ça prend 3 fois plus de temps que si tu faisais juste ça en te concentrant. Parce qu'on essaye quand même de varier les plans pour que ça soit comme dynamique pour les spectateurs, quoi. Donc,
Puis c'est ça, faut que tu fasses ta vidéo. C'est vraiment... tout un processus. Après, on le savait et on n'est pas là pour aller vite non plus. On a envie de faire un projet qui nous fasse kiffer.
En
voilà.
Fait, une fois que t'as accepté que ça va pas se faire en 3 mois, voilà. Ça va. Hein.
Ouais.
Finalement, c'est plus les gens qui nous regardent sur YouTube qui sont comme, bah, vous avancez pas, mais en même temps...
On veut voir le résultat.
On fait ce qu'on veut, quoi. Puis si on n'a pas envie de se presser, on se presse pas. Et en fait, à chaque fois qu'on s'est mis la pression, on a fait des bêtises. Donc, autant le faire à notre rythme. Mais là, on est content parce qu'on a enfin fini de traiter la rouille, on a commencé l'isolation et là, on commence à rentrer vraiment dans la construction.
Ouais, c'est ça, on est en mode construction et on n'est plus dans la phase destruction. Donc, ça fait du bien au moral quand même parce qu'on vous a juste enlevé les bouts.
Et là, ça commence à prendre forme.
Maintenant, on a l'électricité parce qu'avant, on n'avait pas l'électricité. Donc, on faisait tout aux batteries. Donc, en 20 minutes à poncer ton bus, bah, il n'y a plus de batterie. Donc, on avait acheté plein de batteries, mais ça suffisait pas.
On
galérait. Après, on l'a emmené à 150 km de Montréal parce qu'on nous avait proposé de nous installer là le temps de... Parce que l'autre personne avait aussi acheté un bus, mais finalement, il l'a revendu. Donc bon, on s'est dit, on va repartir quand on aura rebouché le trou. Mais c'était à 150 km, donc il fallait y aller le week-end. Enfin bref, et au mieux de tout ça, toi, t'as fait un burn-out à cause de ton travail. Voilà, on n'a pas avancé autant qu'on aurait aimé, mais bon.
Ok, il y a plein de choses.
Mais cette année, ça avance bien quand même.
Bon, bah ça, c'est top. Vous aussi, vous avez hâte de voir le résultat comme vos followers, j'ai envie de dire.
Tu m'étonnes. Mais en fait, ce qu'il y a d'important, c'est de voir que c'est le processus qui est intéressant. C'est pas juste le fait d'avoir le bus qui est fini, c'est tout l'apprentissage qui va avec et tout ce qu'on a appris. Parce que c'est un peu dingue. Là, tu te dis, bon, t'es deux nanas qui connaissent rien en mécanique, qui connaissent rien en bricolage, soudure et tout. Et bah maintenant, quand on voit de la rouille avec une poutre qui s'effrite, on se dit, oh, c'est pas grave, on va prendre ça, on va l'arracher, on va le couper, on va se couper, on va riveter.
Ouais, c'est ça, bon. En fait. C'est quand même un truc que je pense qu'on pensait impossible à un moment où ça nous serait arrivé sur une voiture, par exemple, un accident.
On aurait pleuré.
On aurait fait comme, oh, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais?
T'appelles
dans
quelqu'un, quoi.
Maintenant, on regarde les autres véhicules qui ont de la rouille, on fait, oh, ils devraient se mettre ça, ça, ça.
C'est vous qui donnez des conseils maintenant, trop bien, génial. Bon, alors effectivement, donc là on est sur le bus, il y a plein de choses, donc on en parlait un petit peu, vous avez votre chaîne YouTube qui s'appelle donc Voyage en roue libre, que vous avez lancé du coup il y a 2 ans, après Les Petits Aventuriers, et ça c'est pareil, cette chaîne vous l'avez lancée parce que grâce à la chaîne Les Petits Aventuriers, vous avez réussi à développer des compétences sur justement tout ce qui est filmé, voilà, toutes les compétences autour de la création d'une chaîne YouTube, quoi. Et donc cette chaîne là vous avez réussi en 10 mois à avoir plus de 10 000 personnes qui vous suivent. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour ce format, pour peut-être pour ce dont vous parlez, quoi, enfin...
Bah déjà, Les Petits Aventuriers, vraiment on a eu du mal à faire lever la chaîne parce que le public, c'est à travers les parents et on s'adressait aux enfants, donc il y avait un espèce de filtre et c'était compliqué. Mais on a appris beaucoup à travers la chaîne des petits aventuriers sur comment fonctionnait YouTube, etc. Donc ça a été un enseignement assez fort. Il y a un élément, c'est que quand on a fait les petits aventuriers, donc on a eu beaucoup de mal à avoir des vues au début. Ça a été vraiment intense, là. T'sais, dès que tu passais 100 vues, c'était la fête. 1000 vues, oh my god, c'est un succès.
Bah, la concurrence est énorme, quoi, sur YouTube.
Bah, c'est pas tant la concurrence, c'est le fait que, si tu veux, on était vraiment dans une niche qui était pas du tout exploitée pour les enfants, c'est-à-dire les contenus éducatifs pour les enfants sur YouTube. Donc souvent, ils sont mis devant des comptines, devant des films comme les Disney ou les unboxings, etc. Et les parents savaient pas qu'il y avait du contenu éducatif.
En fait, bah, même toujours, je pense que c'est toujours le cas, les parents se méfient quand même beaucoup de YouTube parce qu'ils ont peur de ce que les enfants pourraient voir sur ce canal, en fait, sur cette plateforme. Du coup, il y avait un filtre des parents et même si des fois, je pense, ils étaient, bah, je vais leur montrer ça. Bah, t'oublies, t'as ta journée qui arrive.
En fait, quand on a fait une ou deux vidéos sur là où on uploadait nos vidéos pour notre blog Voyage en roue libre, on a mis une vidéo pour montrer comment faire tes rideaux dans ta Jeep sans abîmer ta voiture. On en a fait une sur notre matelas dans notre Jeep qu'on avait aménagé. Et on en a fait une où on a été voir un bus où on s'est dit « Ah bah tiens, est-ce qu'on pourrait acheter ce bus ?» Et puis voilà. Et on les a juste uploadés comme ça, sans trop s'en occuper.
En fait, c'était plus, on voyait plus YouTube à ce moment-là quand même comme une plateforme de stockage pour nos vidéos pour qu'on puisse les intégrer dans nos articles de blog.
Quelques mois plus tard, en ayant vraiment bûcher très fort sur les petites aventures, je me disais tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur
avec nos vidéos,
sur nos vidéos de notre blog. Et là, je vois qu'on a atteint plus de 10 000 à 20 000 vues. Et attends, il y a un truc là. Je me suis dit, bah attends, si on achète le bus, on fait des vidéos et on montre comment on s'y prend, parce qu'en fait, il y a une demande. Il y a des gens qui sont là pour regarder ça. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les chaînes YouTube qu'on voit aujourd'hui sur la van life. Il n'y avait pas tout ça. Enfin, il y en avait beaucoup moins en France. Ou alors, ils étaient au tout début comme nous. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup d'infos là-dessus. Donc, il y avait, je pense, une recherche qui était forte. Et puis après, bah c'est ça, je pense aussi le fait qu'on soit deux filles en train d'aménager un bus jaune, bah ça intrigue.
On partage aussi un petit peu notre style de vie, qui est voyage, comment on travaille.
Mais sur le fait que ça a marché. Je pense qu'il y a ça et il y a la régularité aussi. Parce que YouTube, c'est un système qui fonctionne par le référencement. Donc, plus t'as de contenu, plus t'as de portes ouvertes vers ta chaîne. Et puis, c'est que ton contenu aussi, tu dois le construire de manière à ce que les gens restent pour regarder tes vidéos. Parce que c'est pas le fait d'avoir 10 000 vues qui compte, c'est le fait de combien de temps restent les gens sur la plateforme. Puisque l'objectif de YouTube, c'est que tu restes sur la plateforme. Donc, faut réussir à faire en sorte que tu racontes une histoire, qu'il y ait du rebondissement.
Vous mettez combien de temps par vidéo
Ça va dépendre des vidéos, mais on passe... au moins 2 jours, ouais.
Et vous en sortez une par semaine, c'est ça?
Ouais.
C'est un boulot de dingue, en fait. Parce que, alors, du coup, pour revenir un peu, vous avez ces deux chaînes YouTube. Je crois que les petits aventuriers, vous l'avez mis un peu en pause en ce moment.
On a plein d'épisodes en stock, là, et on prépare... sortir ça l'année prochaine.
Ouais, parce que les vidéos des petits aventuriers, c'est plus 40 heures de travail, voire plus. Hein.
Ah ouais.
Parce qu'il y a de l'animation, l'illustration, etc.
Bien sûr.
Ça, ça prend énormément de temps.
Donc, vous avez ces deux chaînes, vos activités de freelance aussi, et c'est pas tout, puisque donc vous en parliez, vous avez lancé Créateur Nomade. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots sur ce que c'est? Et puis, pareil, comment est-ce que vous vous êtes dit on va, allez, lancer un autre projet?
Bah, en fait, Créateur Nomade, c'est né en fait de mon expérience finalement, parce que quand je me suis lancée à mon compte sur les routes, je me disais bah c'est trop cool, je peux travailler n'importe où, mais j'ai fait plein d'erreurs. Puis j'ai vraiment redressé la barre et j'ai vraiment cherché à avoir les meilleures options possibles pour les créateurs pour pas qu'ils se plantent. Je me suis nourrie de plein d'expériences, de livres, de formations, de plein de trucs dans tous les domaines. Et j'ai plein d'amis en fait qui ont ce truc de dire ah je veux me lancer à mon compte mais tu comprends c'est pas viable etc. Alors que oui c'est viable, c'est juste faut juste prendre les bons clients et faut bien développer ton activité.
La peur de l'argent c'est vraiment la plus grande peur pour se lancer.
Ouais et puis j'ai une amie en particulier qui avait vraiment ça faisait en fait quand on s'est rencontrés à Montréal il y a 9 ans. Elle me dit, ah, j'aimerais ça, me lancer en photo, mais tu comprends, je suis pas à la hauteur et tout. Enfin, j'ai commencé à lui faire, ok, non, c'est pas possible. Là, un jour, je suis venue chez elle, j'ai dit, ok, on va ouvrir son Instagram, on va ouvrir son machin, tu vas me publier une photo par jour. Puis là, ça suffit, tu vas faire ça. Et aujourd'hui, là, elle est surbookée de mariage, elle a plein de trucs et elle a vraiment développé son activité, elle fait quelque chose qui lui plaît et elle s'est interdite de le vivre pendant 7 ans. Et donc, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on va parler un peu de notre mode de vie, faire un blog là-dessus. C'était un peu en lien avec le bus aussi. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, si on pouvait aider les créateurs à se lancer, à voir que c'est possible et que t'es pas obligé de vivre dans des situations de précarité ou alors travailler 70 heures par semaine pour être bien sur des projets que t'aimes pas, ça marche pas. Donc, on a lancé le blog, Voyage en roue libre, qui parle de plus en plus de ça. Et on a lancé le podcast où on allait à la rencontre de créateurs qui vivent de leur activité de freelance et qui s'éclatent dans leur vie. Donc sur le podcast, on a vraiment pu interviewer des gens super inspirants. On a interviewé Laurice Monteux, on a interviewé une exploratrice, Caroline Côté, qui est partie avec des explorateurs les filmer dans des zones comme l'Antarctique. Enfin, on en a vraiment de tous bords et tu vois qu'en fait, c'est possible. C'est juste qu'on a des blocages des fois qui sont... mentaux, mais il y a aussi tout la partie où on t'a pas appris en fait les bases de l'entrepreneuriat, tu sais pas comment t'y prendre. C'est des trucs qui permettent en fait de dépasser tout ça puis de te lancer.
Puis il y a peut-être la pression aussi de l'entourage qui peuvent parfois dire ben c'est pas viable ou voilà tu vas te planter, c'est pas sûr, voilà ce genre de choses. Ouais. On connaît bien.
On a écrit un guide là-dessus qu'on donne gratuitement aux gens sur notre site. Où on explique déjà les premières étapes pour développer ton activité, mais sans forcément quitter ce que t'as en ce moment, mais tu le fais progressivement pour pas avoir cet effet de pénurie dont on parlait plus tôt, pour faire quelque chose qui te ressemble. Et puis après, bah la communauté, on a tout simplement demandé c'est quoi votre problème, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Ils nous l'ont dit et du coup, bah, on a commencé à créer un programme vraiment sur mesure pour les créateurs, donc les vidéastes, les photographes, les illustrateurs, les motion designers, ouais. Les artisans, bref, les monteurs vidéo, ceux qui ont une âme créative et qui ont peur de se vendre. Qui se sentent pas légitimes, qui ont le sentiment de l'imposteur. On a vraiment créé un programme pour eux sur mesure qui dure 10 mois maintenant et où on a un accompagnement personnalisé, où on a des espaces de communication privée avec eux, on fait des lives avec eux. En fait, on leur permet de créer un réseau, mais d'avoir un soutien aussi de notre part. Puis on a tout un accompagnement avec des formations vidéo, des exercices et tout.
Donc ça, c'est le campus.
Ouais, c'est ça. C'est le campus des créateurs nomades. Puis c'est cool parce que là, on a commencé à faire des vidéos témoignages avec les premiers membres qui étaient du pilote. Finalement, parce qu'on savait pas si ça allait marcher ou pas. Quand tu lances un projet, t'as toujours le côté est-ce que ça va vraiment marcher ? Et puis là, c'est cool de voir que quelques mois plus tard, ils sont super contents et qu'ils sentent qu'ils ont avancé. Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc où tu te dis on n'a pas fait ça pour rien.
Ouais,
ça
fait plaisir, quoi, parce que
il y a la satisfaction d'aider d'autres personnes qui étaient dans votre cas, enfin comme vous auriez pu l'être.
Leur éviter de faire 8 ans d'erreur.
C'est ça.
8 ans d'erreur.
Et de vraiment prendre la bonne direction et de bien démarrer et de pas se planter, ça fait plaisir, tu sais, de voir qu'ils ont évité des grosses erreurs ou alors qu'ils ont trouvé leur premier client ou qu'ils ont créé un truc qui leur ressemble alors qu'au début ils partaient vraiment dans un truc qui avait pas rapport avec ce qu'ils avaient envie de faire, mais juste parce qu'ils se sont dit tiens, il y a peut-être du travail là, je vais le prendre, et en fait ça allait pas leur ressembler.
Ouais, puis c'est hyper intéressant de les accompagner dans leur projet parce que les profils sont aussi très variés en fait. On a des étudiants qui finalement sortent de leurs études, mais ils ont eu aucune préparation au métier d'entrepreneur, donc ils sont un petit peu perdus par rapport à ça, donc ça les aide. Mais on a aussi des gens qui ont été salariés pendant 15 ans et puis qui ont envie de changer et sont vraiment en transition, ouais, c'est ça, et qui ont besoin d'être assurés. Et, ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant, quoi.
Et alors, j'ai une question, parce que du coup, vous avez plein de projets. Niveau organisation, comment ça se passe entre réparation du bus, activité de freelance, YouTube, podcast, etc., et la création de formation, parce que ça prend du temps aussi. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une organisation magique?
On essaye d'avoir un objectif précis par période, un ou deux objectifs, parce que comme on est deux, on peut prendre chacune plus un gros objectif. Par exemple, c'est pour ça que les petits aventuriers, on a mis une petite pause dessus parce qu'il fallait qu'on se concentre sur le campus. Le temps que le campus se fasse, on s'est dit on va se concentrer sur nos élèves, sur les personnes qui nous ont fait confiance. Et les petits aventuriers, de toute façon, pour qu'ils deviennent financièrement viables, il faut plus de temps. Et donc, on va attendre un petit peu parce qu'on avait des producteurs qui étaient prêts à participer. Mais on veut garder notre liberté. Donc, on s'est dit, si on veut garder notre liberté, il faut accepter que ça va mettre un peu plus de temps. Donc, des fois, c'est juste d'accepter qu'il y a des trucs que tu feras pas au moment où tu veux le faire. Et de mettre un objectif à la fois. Par exemple, cet été, on s'est dit, c'est sûr qu'on va remettre du temps sur YouTube. On a laissé la chaîne, puis YouTube, il aime pas trop quand tu les abandonnes.
C'est selon aussi certaines périodes. On n'hésite pas à suspendre les vidéos si y a besoin, ou le podcast. Ouais. On n'a pas eu quelques épisodes pendant un ou deux mois, je pense.
Faut faire des choix, de toute façon, sinon.
On priorise, on n'hésite pas à prioriser. Et là, quand même, depuis cette année,
si on dédie des jours aussi
on commence à déléguer.
Ouais, on commence à déléguer aussi. Et on dédie des jours. Par exemple, le vendredi, normalement, c'est ma journée montage pour les vidéos du bus. Et Mumu, elle sait que elle doit faire préparer les montages, le pré-montage, parce que c'est Mumu qui fait le pré-montage, qui déroge tout, puis moi, je fais le final. Ouais. Donc ça, c'est un qu'on a mis en place cette année, parce qu'avant c'était moi qui faisais tout au niveau du montage. Donc là on a déjà scindé cette partie-là, donc moi ça me permet de dégager du temps pour la formation, pour les tournages de la formation. Ça permet de mieux s'organiser et en fait d'avoir des fois aussi des journées où tu sais que tu fais telle chose. Par exemple, le lundi, c'est la journée des appels clients. Le vendredi, c'est la journée des tournages. Après, on est un peu plus flexible sur les journées du milieu. Mais ça, au moins, déjà, ça te donne une ligne directrice de savoir ce que tu dois faire et à quel moment.
En fait, c'est ça. Rien que de pas ouvrir toutes tes plages horaires pour les appels, ça te fait gagner énormément de temps, en fait, quoi. On sait qu'on a vraiment une journée qui est dédiée à ça.
Puis c'est pareil, par exemple, pour les réseaux sociaux, tu vois, on a la chaîne YouTube qui est un peu notre plateforme principale. On développe un petit peu Instagram, mais on y met moins d'énergie parce que notre plateforme principale, c'est YouTube. Si je poste pas pendant une semaine, deux mois sur Instagram un post dessus, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas la plateforme principale qu'on développe, parce qu'en fait, YouTube, on leur dit « inscrivez-vous sur Instagram » et les gens vont venir sur Instagram. Et en fait, après, quand Instagram sera peut-être plus développé, YouTube, ça marchera bien, ça va rouler tout seul et tout, peut-être qu'on mettra plus d'énergie sur autre chose. Mais aussi, c'est des fois de savoir sur quoi tu vas mettre tes forces aussi. Toi, on aurait pu faire un Instagram pour promouvoir Créateur Nomade, spécifiquement le podcast, mais on le fait pas parce que c'est pas possible, en fait, techniquement et humainement, de tout faire, en fait. Même si on est deux, c'est pas possible. Et puis, c'est ça, on commence à déléguer, parce que chaque podcast, on en fait un article. Donc là, on a demandé, justement, à une des élèves de la formation qui est rédactrice, on lui a donné le contrat. Quand on fait une interview, on lui donne l'article. Elle nous fait la première passe pour mettre tout ce qu'on s'est dit, etc. Puis nous, on fait la passe finale maintenant pour ajouter les conseils qu'on aurait à dire en plus, pour apporter un petit peu plus notre vision dans l'article, qui s'accorde avec ce qu'on s'est dit avec l'invité. Mais déjà, toute la partie des recherches d'articles, on va dire, première passe, on l'a donnée. Là, il y a une vidéo justement qui est en train de se faire et on est en train de te parler. Pour une interview, c'est pareil, parce qu'il y a certaines interviews qu'on met sur YouTube. Et les interviews, c'est assez long à monter parce qu'il faut aller chercher des rushs vidéos, des extraits, des
archives.
On s'est dit, là, on peut pas le faire, donc on va commencer à déléguer parce que sinon, on va pas réussir à sortir.
Oui, parce que alors, pour expliquer, donc, vous avez un podcast, vous êtes présente sur Apple Podcasts, Spotify, etc., mais vous mettez aussi ces interviews sur YouTube, mais à ce moment-là, vous ajoutez aussi, on vous voit vous et votre invité, vos invités, mais il y a aussi des extraits vidéo de l'invité qui vous a donné, donc j'imagine que c'est un boulot en plus.
C'est ça.
Ça, c'est assez long à faire.
C'est vraiment du taf, quoi. Moi, de mon côté, j'ai deux podcasts, je trouve que ça prend déjà énormément de temps. Vraiment, je sais pas comment vous faites, mais effectivement, ça laisse une question d'organisation et peut-être aussi de faire des tests, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, et puis après, ça, si ça nous prend trop de temps, on délègue. C'est en faisant aussi qu'on apprend.
Ouais, puis
on
est deux aussi, donc.
C'est une phase de transition aussi. Je t'avoue, on travaille beaucoup en ce moment, mais c'est en même temps, on aime ce qu'on fait, donc c'est pas un problème, mais c'est plus que là, on est dans une phase de transition où justement, t'es entre le moment où tu vas commencer à déléguer, le moment où faut que t'apprennes à déléguer, à accepter que le bébé il est pas dans tes mains. Ça c'est un moment qui est un peu difficile. Tu sais, tu te dis c'est pas moi qui ai le contrôle à ce moment-là. Là on est vraiment dans la phase de, on va commencer à déléguer les projets perso, même les petits aventuriers, on pense à déléguer l'animation et tout, alors qu'au début c'est moi qui faisais tout à 100%, et de me dire c'est pas moi qui vais gérer l'animation, c'est un petit truc qui fait peur, et puis tu dis en même temps
c'est pas évident,
ça qui va faire la différence. La vidéo, si elle est faite par quelqu'un qui est très compétent en animation, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui le fasse, en fait, si le cœur du projet là,
c'est apprendre à lâcher, apprendre à prendre du recul. C'est pas évident, mais je comprends. Dans la dernière vidéo que vous avez sortie là, qui s'appelle donc bilan de un an après ma démission, quelque chose comme ça, je crois que c'est Clem qui a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. On sait qu'on aura toujours du boulot parce qu'on a construit un Lego qui attire des clients qui nous ressemblent pour travailler sur des projets qui nous intéressent et qui nous éclatent. Est-ce que c'est vrai, c'est un peu ce que vous voulez partager justement avec le campus, avec vos formations, etc.?
Exactement, Mathieu. Si on m'avait dit, quand je sortais de l'école, que j'allais être payée pour designer et créer des petits robots en 3D et les animer, que j'allais être bien payée pour faire ça, ou que j'allais faire et tout ça pour aider les gens à mieux s'informer, ou alors un projet pour le CNRS où je dois développer des petits personnages en 3D, ou je dois raconter une histoire pour aider les enfants à détecter s'ils ont un trouble de la lecture Et donc de faire en sorte que bah, plus tard, ils ne soient pas en décrochage scolaire parce qu'on les a stigmatisés, parce qu'ils n'arrivaient pas à lire alors que c'est un problème génétique. Et qu'en fait, là, bah, moi, je participe à un programme qui permet de faire en sorte de détecter ça et qu'on les accompagne dès le début. Bah, c'est trop kiffant, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de projet plus kiffant que de se dire bah, « j'aide des enfants et mon boulot, c'est de faire des petits personnages, un petit panda et un petit pingouin qui se baladent sur la banquise et de faire des histoires là-dessus. » Et tout ça en gagnant correctement la vie ou alors de faire des vidéos pour des projets qui ont trop la classe. On allait faire une vidéo à l'Assemblée nationale pour des architectes à Montréal. Enfin, c'est quand même des trucs où tu te dis on travaille sur des sacrés beaux projets et on est maître de nos emplois du temps. On travaille pour les clients qu'on veut puis on reçoit des demandes de clients ou qui rentrent sans ça. On a encore une il y a un jour ou deux là où on est en mode bah c'est intéressant mais on peut pas le prendre quoi. Donc
ah ouais, ah, il faut refuser des projets.
Ouais, mais en fait, c'est important aussi hein, d'apprendre à refuser des projets même au début comme je disais, même quand t'es pas à 100% dans ton activité, d'être capable de dire non à des projets qui te ressemblent pas, qui sont pas de qualité parce qu'une fois que t'es embarqué dans un projet d'un truc que t'aimes pas, t'as grande chance que ça déboîte sur le fait que bah t'es plein de projets comme ça ensuite qui viennent. Et par exemple, quand on est un créateur, l'erreur de base, c'est dans ton portfolio de mettre des projets que t'as fait mais que t'as pas envie de refaire.
Oui, du coup, on vient te chercher pour ça, ouais.
Et du coup, d'avoir dit, bah ouais, je l'ai fait parce que ça te donne l'impression d'être crédible. Sauf qu'en fait, ce projet, par exemple, immobilier, t'as plus envie d'en faire. Ça a été mon cas. J'ai bossé sur des projets immobiliers qui, j'étais pas à l'aise avec ça ou ça m'intéressait pas spécialement. Et au final, bah, je mettais ça dans mon portfolio. Mais en fait, j'avais pas envie de faire ça. Ça m'intéressait pas ou...
Bah, à la rigueur, vaut mieux mettre moins mais mieux. Et tu peux compléter justement ton portfolio avec, justement, si tu as un projet personnel, bah, ça te permet de montrer toutes tes compétences, tout l'éventail de tes compétences. Mais sur ce projet-là, normalement, t'as pas de contraintes clients, donc tu peux vraiment faire ce qui te plaît, quoi.
Puis tu construis un réseau aussi ouais. Grâce à ton projet perso. Ça, c'est fascinant comme effet.
Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui veulent devenir créateurs nomades, est-ce que ce serait ça, justement, ou est-ce que ce serait autre chose?
Je pense que ce serait déjà se poser la question numéro 1, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et numéro 2, tu trouves des clients qui te ressemblent en étant là où ils sont, mais surtout de savoir s'ils ont vraiment besoin de toi, parce qu'il y a plein de créateurs qui vont se lancer en disant bah, « moi, je veux pas faire des photos de surfeurs ». Qui a besoin de photos de surfeurs? Qui vraiment est prêt à payer pour ça, par exemple? Parce que oui, c'est bien de vouloir faire ça, c'est bien de vouloir, c'est comme moi avec les projets éducatifs, c'est cool, mais qui est prêt à investir là-dedans? Parce que si le client en face de toi est pas capable de te payer, tu peux essayer de lui vendre tout ce que tu veux, déjà ça va pas bien se passer, faut que tu sois un investissement pour lui, et toi si t'es pas capable de bien vivre de ton activité, bah tu vas mal servir tes clients parce que tu vas être frustré, tanné, tu vas te sentir dévalorisé, tu vas pas être bien dans ta peau, tu vas pas être bien dans ta vie, donc pas bien avec tes amis, ta famille et tout. Et en fait la base c'est de réussir à faire en sorte de bien tout aligner pour construire quelque chose qui soit viable et pas avoir à retourner dans un boulot que t'as pas envie de prendre en fait. C'est le danger hein, c'est de pas avoir bien mis les trucs étape par étape. Être sélectif, c'est important. Ça fait peur, mais ça, c'est hyper important.
Ouais, c'est un petit peu contre-intuitif au début de dire, quand t'as pas de client, bah non, je te prends pas, tu vois, un client. Mais finalement, bah, c'est pas plus mal des fois. Ça permet justement d'avoir de la place pour quand t'as un bon client qui t'intéresse, un projet qui t'intéresse, bah, tu peux le prendre justement.
Puis de pas te dégoûter de ton activité, parce que quand on est créateur, c'est une passion souvent, c'est un truc qui te drive, c'est dans tes tripes. Et si t'es dégoûté de ça, parce qu'à un moment donné, moi j'ai vraiment failli abandonner mon métier, j'étais en mode j'en peux plus, ça me saoule, et j'avais l'impression que vraiment j'aimais plus ça. En fait, c'est pas ça, c'était le problème, c'était tout ce qu'il y avait autour en fait. De bien reposer les choses et de pas essayer de trouver le premier contrat qui tombe alors que ça a rien à voir avec ce que t'as envie de faire. Je sais pas si t'es vegan et qu'on te demande de faire le logo d'une boucherie, ça le fait pas quoi. Donc... non mais moyen, c'est vrai. Ouais. Mais sauf que si t'as faim et que bah tu te dis faut que je mange à la fin du mois, j'ai des factures à payer et qu'il y a un boucher qui dit bah fais mon logo, tu vas peut-être te poser la question de dire je le prends ou je le prends pas. Et c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une transition progressive où t'es pas dans un effet de pénurie. C'est vraiment le plus gros conseil qu'on peut te donner, c'est si tu te lances en freelance, fais-le par transition ou essaye de trouver un truc qui va faire en sorte que tu as le choix de dire oui ou non.
Puis aussi, quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est quand tu te lances aussi en freelance, ça peut être quand même plus facile au début d'être sur une base un peu statique. Le temps de construire sa clientèle, je pense que là, témoigner, c'était difficile autour du monde.
Genre un endroit où tu bouges pas trop, d'être un peu le contraire de nomade, quoi.
Un peu sédentaire, mais ça, le temps de ta transition... Mais en fait, c'est aussi de développer un réseau. Donc, si t'as déjà un super réseau et que t'as déjà des clients dans ta valise, vas-y. Mais c'est parce qu'en fait, le voyage, si c'est un voyage en road trip et tout, ça t'ajoute un stress supplémentaire.
Vaut mieux déjà partir, en fait, avec les clients un peu dans sa valise. C'est plus facile. Et comme ça, bah, c'est un stress en moins. Et tu peux te concentrer sur où est-ce que je dors, est-ce que la connexion est bonne, c'est bon, on va rester quelques jours.
Ah, parce que quand t'es au milieu de l'Australie, dans un désert australien, et que t'as un client qui dit « Hey, j'ai besoin que tu m'envoies le fichier de 1 giga » et que t'as pas de réseau à plus de 200 kilomètres, si t'arrives sur un parking où t'as vu sur Wikicoms que oui, il y avait du réseau à cet endroit-là, mais qu'en fait, c'est une barre de réseau. Et quand t'arrives, il est 23 heures et que t'es en train de bouger un petit peu le van pour essayer de capter deux barres histoire que ça passe et que là, t'es sur de la data, t'as 5 gigas de data et que ton truc, il a planté, il te reste 3 gigas et t'es en mode, ça va pas passer. Le client, il va pas être content. C'est pas cool. Donc, faut vraiment être prêt à tout ça et l'anticipation, c'est vachement important aussi.
Bien sûr.
C'est un petit peu ce qu'on a retenu, justement, à travers nos voyages et tours du monde. C'est que tu peux pas, quand t'es créateur nomade, tu peux pas voyager comme si t'étais en vacances, quoi. Tu dois vraiment prendre ton temps. C'est vraiment du slow travel. Sinon, ça marche pas.
C'est une autre façon de vivre, en fait. C'est pas, je suis pas en voyage 2 semaines, bien sûr. Justement, donc là, vous allez lancer une formation prochainement. Donc, c'est pas le campus, c'est autre chose, hein, c'est une autre formation.
Non, c'est la même. En fait, on ouvre les portes que 2 fois par an. En fait, cette année, on les a ouvertes 3 fois parce qu'il y a eu le confinement. Et on s'est dit, c'est peut-être le bon moment pour que les personnes puissent se former en même temps. Et du coup, là, on l'ouvre du 4 octobre au 12 octobre.
Et du coup, pour lancer cette formation, vous avez un bootcamp. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur comment ça se passe, si on veut vous rejoindre, si on veut y participer?
En fait, tu vas sur créateurnomade.com, donc créateurnomade c'est au pluriel, et tu t'inscris et nous on t'envoie toute une série d'emails avec des vidéos, des ateliers en vidéo, des ateliers en ligne, en direct avec nous. Donc on va avoir 2 ateliers live. Et voilà, donc là toi tu as vraiment beaucoup de conseils déjà pour démarrer. Tu reçois le guide aussi avec tous les conseils qu'on peut te donner pour bien démarrer, te poser les bonnes questions et tout, construire un peu ton activité pour qu'elle te ressemble. Donc tout ça, tu vas sur créateurnomade.com, même si c'est fermé, si le bootcamp a fermé, t'auras le guide et puis on t'avertira dès que les portes réouvrent ou dès qu'on refait un atelier. Et voilà, et puis si t'as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la formation et le campus et l'accompagnement qui, ça, dure plus longtemps et qui est un investissement dans ton avenir, quoi.
Ok, top. Ça a l'air trop bien. Écoutez, parfait. J'ai une dernière petite question. Donc, il y a la question un peu récurrente du podcast. Le podcast s'appelle « De vraie vie » parce que le but, à la base, c'était de montrer qu'il n'y a pas un seul chemin, qu'il n'y a pas une seule vraie vie, que tout le monde, peu importe son choix, a une vraie vie. Et donc, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la vraie vie? Si vous aviez une définition de la vraie vie, ça vous évoque quoi?
C'est un Lego. la vraie vie, en fait, c'est de construire ta vie comme un Lego en prenant les morceaux qui sont importants pour toi. Et que tu prends pas la boîte là, tu fais ton plan à toi. Si t'as pas envie que ce soit un château fort, t'en fais pas un château fort, t'en fais un vaisseau spatial. C'est vraiment de faire des trucs qui te ressemblent et c'est un peu d'être égoïste pour être altruiste en fait, dans le sens où réalise-toi pour être capable d'aider les autres. Parce que si t'es pas bien dans ta peau, je suis une ex dépressive grave et en fait à partir du moment où j'ai vraiment décidé de m'occuper de moi avant de vouloir m'occuper des autres, d'essayer de faire ce que j'avais envie de faire et d'atteindre mes objectifs, j'ai pu aider beaucoup plus les gens et te sentir mieux dans ta peau et d'avancer, ça fait rayonner les autres. Alors que quand t'es pas bien, tu pèses sur la vie des autres. Pas parce que t'es quelqu'un de mal, c'est juste que comme t'es pas bien, ils se sentent pas bien pour toi, tu vois. Et donc je pense qu'à partir du moment où tu te réalises et que tu te mets un petit coup de pied aux fesses et que tu décides d'aller bien et te construire selon ce que toi t'as envie de faire, t'es vraiment capable d'être altruiste envers les autres et de pouvoir aller plus loin et faire des trucs de ouf. Et voilà. Moi, je dirais que c'est ça.
T'as quelque chose à dire, Mumu?
C'est un peu chaud, quoi. De rebondir derrière.
Pour Mumu, c'est la bouffe, la vraie vie. La bouffe et le voyage.
Mais c'est vrai.
Non, c'est vraiment, pour moi, avoir une vraie vie, je dirais que c'est faire l'activité qui te plaît tout en voyageant.
C'est de te réaliser, quoi.
Ouais, complètement. Enfin, pour moi, c'est ça. Après, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être vraiment différent. En fait, c'est vraiment, c'est ça, de personnaliser ta vie comme tu l'entends, en fait. Suis
comme un menu.
Comme un Lego, quoi.
Comme un menu.
Comme un menu ou comme un Lego.
Génial. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Où est-ce qu'on vous retrouve, donc, si on veut suivre vos aventures? Donc, il y a beaucoup de choses, donc, dites-nous.
Donc, il y a voyageenroulibre.com. Donc, voyageenroulibre avec des tirets .com, c'est la plateforme qui regroupe un peu tout. Il y a les petits aventuriers, si t'as des enfants et que t'as envie de leur faire découvrir le monde en vidéo. Il y a la chaîne YouTube Voyage en roue libre.
Voilà. Le podcast.
Le podcast, évidemment, je suis bête. Bien sûr. Podcast qui s'appelle Créateur Nomade au pluriel.
Eh ben parfait, merci beaucoup à vous deux, c'était très intéressant. Je suis ravie de vous avoir reçu et puis je vous dis à bientôt.
Merci,
ben merci
à bientôt.